Amour ou fusion? Même si je ne vais pas jusqu'à affirmer une mutuelle exclusion entre amour et fusion, je postule néanmoins que l'amour a un effet antifusionnel et que dans toute vraie relation d'amour, chaque partenaire évolue dans la connaissance de soi et dans l'autonomie, et qu'il transforme ainsi ces désirs fusionnels latents que l'on peut appeler des désirs morts en désirs vivants. La fusion se caractérise par une plus ou moins grande absence d'autodétermination à défaut de connaissance de soi. Un enfant pour lequel sa mère n'est pas miroir pour son propre moi ne sait pas qui il est. Il n'a pas connaissance de son je suis. Sa capacité d'aimer sera restreinte à un narcissisme inconscient qui, comme dans le mythe antique de Narcisse, le renferme dans la coquille de son moi replié sur lui-même. Car seul celui qui se connaît peut connaître autrui. Seul celui qui s'aime peut aimer autrui. Mais pour se connaître, pour s'aimer, pour se construire, il faut au petit enfant la possibilité de se refléter dans ses parents. Si cela lui est défendu parce que les parents projettent sur l'enfant leurs propres parents imaginaires ou sont tellement enfoncés dans leurs problèmes qu'ils sont incapables de s'ouvrir, l'enfant est obligé, pour pouvoir se construire psychiquement, de remplir le vide, l'absence de son propre moi, par la présence psychique plus ou moins totale des parents ou de l'un des parents. Voilà ce qu'en thérapie on appelle une fixation narcissique, bien que dans la plupart de la littérature psychiatrique, on ne trouve guère mention de l'étiologie fusionnelle du problème. Cette fusion psychologique et artificielle reste à bien distinguer de la fusion primaire et naturelle. Elle est en premier lieu un problème intrapsychique. Elle se perpétue alors au-delà des 18 premiers mois de la vie, période pendant laquelle elle doit avoir lieu si la mère, de par sa propre fixation fusionnelle, ne permet pas à l'enfant de quitter graduellement la symbiose, ou si la mère est incapable de vivre la symbiose primaire avec son enfant. Une mère qui n'a pas quitté la symbiose avec ses parents projettera inconsciemment l'image parentale sur ses enfants. Elle aura toujours l'intention de faire revivre ses parents à travers ses enfants, ainsi incubant ses ancêtres dans la prochaine génération. C'est, nous le savons par la psychanalyse, un comportement archaïque et magique qui a pour effet de réduire à néant la personne propre de l'enfant pour qu'il incarne l'esprit défunt d'un aïeul. Beaucoup de parents, voulant réincarner à travers leur enfant les caractéristiques aimées ou les capacités admirées d'un parent ou d'un grand-parent, font cela sans se rendre compte qu'ils écrasent par de telles projections la personnalité propre de l'enfant qui, lui, est venu pour incarner ses caractéristiques à lui ou à elle, car elles sont la raison de sa mission dans cette vie. De tels parents ont tendance de dévaloriser toute tentative de leur enfant en direction d'autonomie. On les trouve constamment en train de culpabiliser l'enfant avec le reproche d'être ingrat ou celui de ne pas aimer assez ses parents. La réaction parentale face à tout signe d'autonomie de l'enfant se caractérise par l'angoisse et l'agressivité. Par conséquent, l'enfant sera bloqué sur son chemin vers le monde, vers la vie, pour en quelque sorte rester victime de la matrice. C'est un comportement pervers, mais très commun dans notre société et on a tendance à le justifier de maintes façons populaires. Une mère qui agit ainsi n'est guère capable d'être miroir pour son enfant, comme l'ont montré à l'évidence les recherches et observations de Melanie Klein, Winnicott, Françoise Dolto et Alice Miller. La symbiose psychique du bébé avec la mère pendant les premiers 18 mois et le fait que pour le bébé, à cet âge, la mère est encore objet partiel de son propre champ corporel sont des faits qu'aucune mère peut délibérément ignorer. D'autant plus est-il important que la mère, déjà pendant cette période, émette des signaux qui donne à l'enfant la permission d'effectuer une démarche progressive vers l'autonomie. Ceci, bien entendu, en dépit de la dépendance presque totale de l'enfant, de sa mère pour sa nourriture physiologique et affective. L'enfant, pour sa part, donne des signes évidents pour faire valoir ses besoins, et ces signes sont, pour toute mère naturelle, des émanations sonores de la personnalité propre de l'enfant. Ce sont les cris par lesquels le bébé signale sa faim, sa soif ou son besoin affectif. Ce sont les mouvements de l'enfant s'éloignant de la mère lorsqu'il explore son proche entourage. C'est la découverte des objets encore inconnus. C'est aussi le fait de ramper dans une autre chambre, de grimper sur le bord de la fenêtre pour regarder dehors ou bien d'autres comportements encore. Les réactions ouvertes ou psychiques de la mère dans ces situations sont essentielles pour orienter l'enfant dans son développement psychomoteur et elles sont à cet effet immédiatement gravées dans la mémoire de l'enfant. Elles y restent effectivement gravées pendant toute notre vie et déterminent comment nous serons conditionnés dans notre approche générale à la vie. Car les attitudes parentales emmagasinées en forme de oui ou de non resteront dans notre subconscient. Le petit enfant encore en contact télépathique avec ses parents enregistre les réactions parentales à ces manifestations d'autonomie comme des commandes et il essaie de se comporter de manière à être en accord avec elles. De tels messages peuvent signifier « Oui, j'approuve ce que tu es et ce que tu montres de toi. » Ou bien « Non, je désapprouve que tu sois différent et que tu réagisses différemment que moi. » Ou pire « Non, j'aimerais que tu sois comme je veux que tu sois. » Il est évident que les deux derniers messages, souvent non-verbaux ou rudimentairement verbaux, et quand ils sont répétés, vont inhiber l'enfant dans son développement d'autonomie.